11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne, nouvelle émission avec le service de santé universitaire de l'Université de Tours. Et aujourd'hui, nous allons parler audition, il me semble. Alors, avec moi en studio, il y a Florence Mérigaud, infirmière au service santé universitaire. Bonjour.
Bonjour, et puis bonjour à tous vos auditeurs.
Merci. Il y a également Céline Savary, étudiante infirmière en stage au SSU. Bonjour.
Bonjour.
Et il y a aussi nos étudiants relais santé, Farid Bouassoun, bonjour.
Bonjour à vous.
Et Axel Missud, bonjour.
Bonjour.
Alors Axel, je crois que vous allez commencer cette émission par peut-être nous en dire plus sur le sujet du jour.
Eh bien, on est là pour vous parler donc de l'audition en général, de comment est-ce que les étudiants ressentent la thématique de l'audition, est-ce que ça leur parle, est-ce que c'est un sujet qui leur est plutôt lointain, et également, avec l'aide des professionnels, vous expliquer en fait ce qu'on va faire au SSU, ce qui est mis en place justement pour vous aider à comprendre l'impact de l'audition sur votre vie, si vous ressentez des petites gênes, que faire, comment réagir, pour pas que ça ne vous entrave votre vie et vos études.
Alors je crois que vous aviez commencé par une étude, non ? Un sondage auprès des étudiants ?
Exact. Alors on va commencer par une définition beaucoup plus générale de l'OMS, bon, qui est certes très école. C'est qu'en fait, la capacité auditive, on dit qu'elle résulte de l'interaction entre les influences dites négatives et dites positives. Donc en fait, le bruit, on l'a au quotidien. Quand on est chez nous, qu'on vit en ville, à la campagne, le bruit, il est partout. Quand on est à la fac, c'est également le cas. Et en fait, quand on parle entre étudiants du bruit, on remarque que c'est pas une thématique qui est souvent abordée entre nous, du moins. Mais en fait, ça touche tout le monde et on le ressent tous d'une manière différente. Et dans ce qu'on a recensé, donc, c'est que la vision des étudiants, elle varie beaucoup en fonction des études que les étudiants font. Par exemple, en musicaux, c'est vraiment une préoccupation majeure. Alors que, par exemple, dans les études de sciences ou les études de droit ou encore les études de sciences humaines en général, voire même de médecine, même si médecine, forcément, ils font un peu plus attention parce que la santé, c'est ce qu'ils étudient. Pour les autres divisions, on peut dire, ça ne semble pas être vraiment prioritaire. Du moins, c'est ce que l'on pense parce qu'on n'en parle pas entre nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement indifférent à cette thématique, comme le recensent en effet les différentes statistiques qu'on a eues via nos réseaux sociaux et les différentes questions posées donc, par mes collègues au sein du service via donc, la plateforme Instagram, le site des ERS, où on parle du coup de toutes les thématiques abordées par le service et où on vous a posé 4 petites questions. La première, c'est: est-ce que vous vous sentez gêné par le bruit dans la vie de tous les jours ? On a eu 67% de oui contre 33% de non. Donc ça prouve quand même que même si on n'en parle pas entre nous, bah si en fait, on est concerné totalement. On s'en rend compte notamment parce qu'il y a la mise en place de pianos dans les services et notamment aux rues, donc aux services de restauration universitaire où en fait bah, il y a beaucoup de monde sur un laps de temps très réduit et où le bruit est vraiment ambiant partout, que ce soit par les machines qui servent à nettoyer les assiettes ou même les gens qui parlent entre eux parce qu'on s'entend pas même à des toutes petites distances. La deuxième question, elle est un peu plus ouverte, c'est: quel lieu de la fac vous le trouvez le plus bruyant ? Eh bien, 12 personnes nous ont parlé, sans hésiter, donc du restaurant universitaire. Et d'autres nous ont parlé donc des amphithéâtres. Parce qu'en effet, de par leur façon d'être construits, les amphithéâtres, bah, c'est fait pour envoyer du bruit, pour qu'on puisse tous, quelle que soit notre position dans l'amphi, entendre ce que dit le professeur. Mais du coup, bah, le bruit, on l'entend partout, tout le temps, et il n'y a pas vraiment de pause. Ce qui fait que pour les personnes qui habitent loin, qui ont des transports en plus, qui vivent peut-être dans des lieux qui sont mal isolés, bah, le bruit, ils l'ont véritablement tout le temps et ça peut vraiment devenir une vraie souffrance. Quant à la dernière question, c'est: vous sentez-vous parfois fatigué à cause du bruit ? C'est là qu'on a été en fait le plus surpris parce que, enfin, du moins, ça a été mon cas en tant qu'étudiante, c'est parce que le bruit, moi, je le ressens tous les jours parce que je vis en ville, je suis une citadine. Et même des gens qui sont campagnards, ils disent « Oui, vous savez, en ville, même en campagne, bah, on entend les motos, on entend les tracteurs et ça fait du bruit aussi. » Mais c'est que oui, on est fatigué par ça, mais très peu en fait prennent conscience que c'est à cause de leur audition qu'ils sont fatigués. Même si ça commence un peu à se réveiller, puisqu'on a 85% de personnes qui disent que oui, ils se sentent fatigués à cause du bruit, mais ils savent pas toujours des fois identifier si c'est que le bruit qui est en fait la source de leur fatigue. Et 15% de non, donc il y a quand même 15% qui se disent « si je suis fatiguée, c'est pas à cause de mon audition ». Mais justement, avec mes collègues, donc, on va pouvoir voir comment un peu la fatigue auditive peut se répercuter donc, sur le corps.
Alors, je crois que c'est Farid qui va prendre la suite.
C'est ça. Donc moi, je suis là pour un petit peu vous informer donc, ce que le SSU dit vis-à-vis de tout ça. Donc, on connaît tous les bouchons d'oreille, voilà, c'est une solution qui est assez efficace, ça coupe pas mal le bruit, mais de temps en temps, ça peut faire mal aux oreilles. C'est vrai que moi-même, de par mon expérience, des fois, je me réveille un peu avec l'oreille bouchée quand j'en mets. Donc, c'est vrai qu'il n'existe pas que ça. Donc, le SSU donc, organise des actions de groupe et des actions individuelles aussi. Donc, comment ça se passe? Si jamais vous sentez que vous avez des problèmes d'audition et que vous vous posez des questions donc, sur vos oreilles, sur vos auditions, vous pouvez prendre rendez-vous au SSU. Donc là, ça serait pour un rendez-vous chez le médecin. Du coup, vous avez rendez-vous avec un médecin spécialisé dans l'audition. Donc, vous pourrez faire un audiogramme et d'autres choses aussi pour voir à quel point vous pouvez. Si jamais vous avez des problèmes d'audition, il y a aussi des actions de groupe. Donc, comme par exemple le 10 mars, je crois, Axel, c'est ça. Le 10 mars, le SSU organise une action de groupe où vous pouvez venir donc, sur prise de rendez-vous et vous pouvez vous faire dépister toute la journée si jamais vous avez des problèmes d'audition. Donc voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des problèmes d'audition ou si vous sentez que vous avez du mal avec vos oreilles, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous au SSU et vous pourrez savoir si réellement vous avez des problèmes d'audition. Vous pouvez aussi donc, éventuellement faire des tests avec votre ordinateur. Donc le SSU va prochainement diffuser des messages pour savoir comment on s'y prend avec l'ordinateur. Si jamais vous sentez que les résultats sont un peu flous ou s'ils sont un peu si vous sentez que ça n'a pas trop les résultats, bah vous pouvez prendre du coup rendez-vous au SSU et à ce moment-là vous serez suivi par un vrai professionnel parce que c'est vrai qu'un professionnel c'est quand même mieux qu'un PC.
Tout à fait. Je veux bien un petit peu reprendre ce que tu es en train de dire, Farid, et puis peut-être compléter un petit peu par rapport à l'intervention d'Axel. Effectivement, ça fait maintenant de nombreuses années que le SSU tient à sensibiliser les étudiants par rapport à leur audition, parce que bah, nos oreilles sont effectivement, comme tu le disais, Axel, un de nos organes qui est toujours en éveil. C'est-à-dire que nos oreilles, elles ne s'arrêtent jamais. Même quand on dort, notre oreille, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle est là pour nous alerter d'un danger, de ce qui pourrait nous arriver. Et donc, notre oreille est toujours en fonctionnement. Donc, c'est vraiment un des organes par rapport auquel il faut absolument être très vigilant. La protéger, puisque dans le fonctionnement de l'oreille, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque traumatisme, chaque sonorité au-delà de nos 80 décibels, qui sont plutôt supportables pour nos oreilles, peuvent entraîner des lésions, et peuvent entraîner des lésions au niveau de nos cellules auditives, qui sont présentes dès notre naissance, mais qui au fur et à mesure des années vont s'estomper. Et à chaque fois qu'on détruit une cellule ciliaire de l'oreille, à chaque fois notre audition va venir abaisser, ce qui fait que on arrive à l'âge senior à avoir une audition de plus en plus basse et de moins bonne qualité. Hein. C'est un petit peu déjà aussi ça, du coup, l'explication initiale. Donc, on a tout intérêt à prendre soin de nos 15 000 cellules sensorielles que l'on a dès notre naissance. Notre projet, il a aussi un intérêt puisque Quand on est petit, quand on est au lycée, on fait des tests, on contrôle nos oreilles, puisque ça va nous permettre, au niveau de la cognition et de l'apprentissage, de nous aider dans nos études, dans notre vie sociétale, dans notre environnement social, pour pouvoir apprendre, s'orienter, parler, hein, puisque un enfant, s'il n'entend pas bien, obligatoirement, il aura du retard sur la parole. S'il a des otites à répéter, et qu'il n'est pas bien traité, eh bien ça va entraîner des déficiences au niveau de son oreille. Donc c'est quand même un organe, comme tu le disais Axel tout à l'heure, dont en fait on ne prend pas trop conscience, mais qui malgré tout est extrêmement important dans le cadre des études. Donc ça, ça me paraissait important de le repréciser. C'est important aussi parce que cette oreille, elle fonctionne avec notre cerveau. Et on ne lui apporte pas tout le soin nécessaire et qu'elle n'est pas dans les pleines possibilités de son utilisation, on va là aussi fatiguer notre cerveau. Donc au niveau de la cognition, ça va être beaucoup plus difficile. On va rentrer le soir, on sera beaucoup plus épuisé, beaucoup plus fatigué, comme tu le disais tout à l'heure, par les bruits extérieurs, par les sonorités de la ville, par ces choses-là qui vont apporter en fait une fatigue dont on n'aura pas particulièrement conscience. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a aussi quand même quelques regards d'étudiants là, par rapport au confinement. Moi, je voulais quand même en dire deux mots, parce qu'il y a quand même des retours de jeunes qui disent que du coup, pendant le confinement, ils ont pris l'habitude d'écouter pendant de longues journées avec soit des casques ou des écouteurs, et que du coup, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça pouvait avoir un impact au niveau de leur cerveau et que ça entraînait du coup cette fatigue. Donc ce confinement a eu aussi des incidences sur notre audition. Hein ?
Alors moi, j'ai quelques questions additionnelles. Vous avez mentionné, Florence Mérigot, un bruit à 80 décibels. Alors ça correspond à quoi en fait ? C'est le bruit de quoi 80 décibels ? C'est l'aspirateur ? C'est la rue ?
Alors le 80 décibels, on va dire que ça correspond à peu près à une circulation automobile dense, le bruit d'un aspirateur dans une maison, à peu près au bruit des véhicules. Donc c'est ce qui reste, supportable et fatigant, qui peut être un peu pénible, mais qui n'est pas à risque pour nos oreilles. Hein. Après, évidemment, on va arriver sur des intensités à risque telles que, par exemple, celle d'un TGV, un bruit de pot d'échappement de moto, dans des concerts où parfois on peut avoir, ou en discothèque, des intensités qui peuvent monter jusqu'à 102 décibels, voire bien plus haut, à 140 décibels lors du décollage d'un avion, par exemple, ou lors de tirs de feu dans un lieu, par exemple, où on va s'entraîner au tir à la carabine ou des choses comme ça. Donc, il est effectivement, à ces moments-là, extrêmement important d'avoir un nécessaire de protection pour le mettre et protéger ses oreilles.
Donc ça veut dire, par exemple, pour les étudiants qui seraient, je veux dire, en situation de bruit permanent, sur les lieux, sur les campus, au restaurant universitaire, peut-être que le bruit n'est pas d'une intensité telle qu'il abîme les oreilles. Au demeurant, il crée bien une fatigue puisqu'il est continu.
Tout à fait. C'est exactement ça. Il y a cette fatigue dont on évoquait tout à l'heure la mise en place un peu insidieuse. Après, ce qui peut être intéressant pour les étudiants, c'est de télécharger ce que va proposer l'association avec laquelle on va travailler, dont je vais vous dire deux mots après, de télécharger le sonomètre et de pouvoir, dans ces lieux, avoir ça sur son portable et pouvoir justement tester ces lieux où on a cette impression là que c'est un peu plus bruyant, voir du coup à combien de décibels on est et du coup pouvoir un petit peu se protéger en fonction.
Alors une dernière question, quand on fait un audiogramme, on mesure quoi en fait ?
Alors, on mesure au niveau de on contrôle d'abord l'oreille droite et l'oreille gauche de façon différente, et puis on envoie des intensités en hertz pour voir sur des sons bas et importants. Plus important, comment l'oreille va réagir, en intensité faible et au niveau de l'intensité beaucoup plus haute. Et ça permet de détecter une anomalie et une perte d'audition.
J'avais une question du coup moi aussi vis-à-vis des écouteurs. Donc on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très utilisé notamment chez les jeunes. Je voulais savoir, est-ce que c'est réellement dangereux ou pas pour les oreilles ?
Alors, ça peut être dangereux en fonction l'intensité qui est délivrée. Là, les écouteurs, les écouteurs par rapport à un casque ou les petits écouteurs l'on met.
Vraiment les choses qu'on.
Les AirPods.
Ouais,
il semblerait que les ORL disent qu'effectivement les AirPods, il faut se méfier. Et là encore, ça dépend à combien tu les utilises. Si tu restes dans une consommation peu longue sur tes 80 décibels et que tu montes pas ton niveau au-delà, sur 15 minutes, une demi-heure dans la journée, ça n'est pas dangereux. Si tu les utilises pendant 10 heures sur ta journée avec des intensités à 130, évidemment que là tu dégrades ton oreille.
D'accord.
Tu abîmes ton oreille et là c'est à proscrire.
D'accord, ça marche. Ok.
Et j'ai une question aussi. Du coup, l'oreille, elle s'abîme que si on écoute de la musique dans le temps, ou ça peut arriver quand on a une musique qui est très courte et très forte ?
Alors, les deux sont possibles, effectivement. Il y a la durée qui va intervenir, et puis il y a aussi l'intensité brutale d'un choc qui va être court, mais très intense, comme le décollage de l'avion à 140 décibels. Là, tout de suite, ça peut léser les cellules et par conséquent, entraîner un traumatisme au niveau de l'oreille.
Donc du coup, les cellules ne sont pas régénératrices alors ?
Absolument pas.
Ah d'accord.
C'est un petit peu comme nos neurones.
Ouais, bah ouais.
On a un pool de 15 000 en moyenne cellules de naissance. Et puis on va au fur et à mesure du temps les épuiser en fonction de la consommation qu'on va en faire, si on peut dire. Et ces cellules-là ne vont pas se régénérer. Donc c'est cette conscience-là, je pense, qu'il faut avoir de se dire attention, à notre capital auditif.
Ah, comme quoi, c'est connu pour le cerveau, mais pas, moi, je ne savais pas pour les oreilles. Je ne savais pas du tout que ça ne se régénérait pas. Donc maintenant, je le saurais.
Voilà, donc ça, c'est des messages qui sont intéressants à faire passer auprès des étudiants. Nous, on travaille aussi depuis plusieurs années avec l'Association nationale de l'audition. Donc, qui crée tous les ans la Journée nationale de l'audition, qui cette année, comme tu l'as dit tout à l'heure, Farid, va avoir lieu le jeudi 10 mars. Donc, ce sont une association qui est extrêmement spécialisée avec des ORL, des personnes qui proposent tous les ans une thématique autour de l'oreille et des outils. Donc, on s'associe à eux pour pouvoir faire une grande journée et proposer du dépistage à tous les étudiants de l'université. C'est une action qui tous les ans marche très bien. Là, on va refaire passer mercredi un lien d'autodépistage, comme tu disais tout à l'heure, qui peut permettre un premier petit challenge à faire soi-même et qui donne, à la suite de cet autodépistage, la possibilité de venir vers nous, soit le 10 mars, mais on a déjà plein d'étudiants qui sont très intéressés. Je peux déjà dire qu'au-delà du 10 mars, on va leur proposer d'autres choses. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à s'inscrire afin de pouvoir être repris sur les autres journées. On leur proposera la même qualité de dépistage. Et donc, à la suite de ce dépistage, il y a nécessité de les orienter vers l'hôpital ou un ORL. Ce travail est fait aussi conjointement avec le service de santé universitaire et le service ORL du CHRU de Tours.
Alors, à partir de quand on peut dire réellement qu'il y a un problème d'audition ?
Alors, il y a un problème d'audition à partir du moment où soi-même, on se rend compte qu'on est obligé de changer ses habitudes, qu'on entend moins bien, que notre entourage commence à nous dire « mais tu fais répéter, mais tu mets ta musique beaucoup trop forte, mais dans ta voiture, dis donc, qu'est-ce que tu écoutes ta radio très forte ?» Donc voilà, souvent on a des remarques un petit peu comme ça de l'entourage, où soi-même, on se rend compte qu'on est obligé de prendre des postures en tournant un peu plus la tête d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, tous ces petits signes-là, pour tous ces petits signes-là, on encourage du coup à s'orienter pour venir faire le test, l'audiogramme, et tester l'oreille droite et l'oreille gauche et voir un petit peu s'il s'agit réellement d'une déficience de l'oreille ou si c'est parce qu'on n'est pas attentif, hein, ce qui peut aussi du coup des fois se faire, on n'est pas attentif à l'autre, à ce qu'on est en train de nous dire, à ce qui se passe, et par conséquent, évidemment que si on ne fait pas particulièrement attention, on va des fois perdre une partie du message de celui qui l'émet. Hein, entre cet émetteur et ce récepteur, un petit peu, c'est le fonctionnement de l'oreille.
Mais on peut supposer aussi que c'est des personnes qui vont avoir peut-être tendance à s'isoler. Du coup, par exemple, pourquoi aller à une soirée, par exemple, ou dans un bar, si de toute façon on n'entend rien, on n'entend pas les conversations. Du coup, ça peut être aussi un risque d'isolement ?
Tout à fait. Ça peut être un risque d'isolement parce qu'on n'entend pas, parce que souvent, c'est extrêmement désagréable. On n'ose pas faire répéter l'autre personne. Et puis, ça peut donner cette impression de brouhaha incessant qui est extrêmement fatigant. Donc, effectivement, les personnes qui entendent mal et qui ne sont pas appareillées peuvent tout à fait s'isoler.
Il y a une autre maladie des oreilles, disons, dont on entend parler, et c'est les acouphènes. Alors, c'est quoi des acouphènes ?
Alors, les acouphènes, ce sont des... Je veux dire un petit peu comme des petits bruits incessants qui sont toujours là, toujours présents à des moments de la journée et qui gênent l'audition et qui ont tendance aussi un petit peu à intervenir aussi sur le cerveau et à agacer au fur et à mesure du temps et à faire que c'est désagréable parce que on a l'impression de sifflement là sans arrêt donc c'est difficilement supportable pour les personnes qui les vivent au quotidien.
Voilà. Eh bien, je vous propose de faire une pause musicale avant de reprendre cet échange, chers invités et chers auditeurs. Alors, je me contorsionne un peu pour lancer une musique. Voilà, il faut que je dompte ce nouveau studio, mais patience, ça viendra. Voilà, nous écoutons un peu de jazz et on se retrouve tout de suite dans la Méridienne. Thank you. Sax Noclar sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi en studio, le service de santé universitaire. Notre sujet du jour, c'est l'audition. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Florence Mérigot, donc infirmière au service de santé universitaire. Est-ce que nos oreilles et notre cerveau ont besoin de se reposer du bruit ?
Alors, ben oui, tout à fait. Dans des bonnes pratiques, on conseillera évidemment lors des sorties, je pense par exemple en discothèque, ou là où il y a des enceintes très puissantes, de se mettre à distance de plusieurs mètres de ces enceintes. D'utiliser lorsque l'on va en concert des bouchons d'oreilles. Ça peut être aussi lorsque l'on est dans un lieu bruyant de s'en isoler, de sortir 15 minutes pour mettre les oreilles au repos. Je pense aux étudiants, vous avez tout à l'heure cité nos étudiants de musicaux, alors je penserai aussi à ceux du CFMI, à nos étudiants de la fanfare de médecine, tous ceux qui jouent beaucoup de musique et d'instruments, à qui l'on proposera d'utiliser des bouchons, mais des bouchons spécifiques moulés, de façon à protéger leurs oreilles, mais tout en ayant le bénéfice quand même ressenti et agréable de la musique. Par rapport à cela, nous avons nos étudiants d'orthophonie. Donc, nous avons 5 étudiants en quatrième année d'orthophonie qui travaillent à ce jour avec nous là sur le projet du 10 mars, de jeudi, et qui ont fait des démarches pour essayer de rechercher un prestataire qui va proposer des bouchons d'oreilles moulés, donc adaptés à la morphologie, parce que ça c'est aussi important pour que ce soit confortable et pour pouvoir les utiliser. Des bouchons moulés au tarif d'environ 90 euros au lieu de 170 euros la paire, ce qui est le coût actuellement. Donc à partir de mercredi, on va faire passer un petit mail à tous nos étudiants pour savoir qui serait intéressé pour investir dans ce type de bouchons moulés. Si des étudiants nous écoutent là, vous allez avoir ce mail qui va venir. En fonction de cela, nous reproposerons un temps à ces étudiants intéressés. Il nous en faudra au minimum 10 pour que la société accepte de se déplacer et nous propose ces tarifs avantageux. Je suis assez confiante sur le sujet. Donc, en fonction, nous reprépareront après un temps pour venir réaliser du coup ces bouchons.
Alors, je crois qu'on peut quand même vous posez plein d'autres questions, donc c'est super, parce que je sais que les étudiants Relais Santé en avaient aussi. Alors, moi, j'en aurais une sur l'hyperacousie, parce que là, on a parlé des problèmes d'audition, des gens qui entendent moins bien, qui ont une perte d'audition, mais je crois qu'il y a aussi des personnes qui entendent trop bien ou trop fort. Donc là, vous pourriez nous en dire.
Alors, je ne vais pas avoir une grande expérience autour de l'hyperacousie. Je ne vous cache pas que dans notre activité, nous, au quotidien, on est plutôt sur de l'hypoacousie ou sur des pathologies que l'on retrouve. L'hyperacousie peut aussi effectivement être un problème et faire en sorte, comme on disait tout à l'heure, que les gens puissent s'isoler, qu'ils puissent se sentir aussi stressés, des fois un peu en mal-être par l'effet un peu agressif, parce que du coup eux ils en entendent beaucoup trop. Ils entendent beaucoup trop, donc le moindre bruit peut les faire sursauter, peut venir un petit peu les gêner dans leur quotidien. Donc c'est des gens qui vont effectivement très tôt apprendre à dormir dans le calme, à éviter les bruits trop importants, trop stridents, des sonorités trop stridentes qui vont au quotidien les déranger.
Alors, une dernière question sur comment le bruit est reconnu ou pas comme un risque professionnel. Je pense aux étudiants qui travailleraient peut-être en parallèle de leurs études dans des lieux très bruyants. Donc, est-ce que c'est considéré comme un risque professionnel, le bruit ?
Alors, le bruit est un des risques professionnels. Je pense par exemple à des jeunes qui travailleraient dans des ateliers, là où il y aurait de la métallerie, où il y aurait des appareils comme ça qui génèrent des sonorités importantes quand on tape sur du métal, quand on fait ce type de profession. Donc là où il y a ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle qui sont mis en place dans ces structures, donc souvent qui sont des casques qui permettent d'isoler hein, de toutes ces sonorités-là. Et la nécessité, bien évidemment aussi pour ces personnes-là, de se retirer du bruit, de s'extraire, comme on disait tout à l'heure, à peu près du même temps que le temps où ils vont être exposés pour permettre à leurs oreilles de se reposer.
Je me tourne vers nos étudiants et étudiantes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Florence Mérigot ?
Moi, j'en ai une qui peut paraître un peu simplette, mais ça me propre, j'ai vu quand même beaucoup de divergences à ce niveau-là. Comment on nettoie correctement les oreilles ? Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut utiliser des cotons-tiges, d'autres non. Il y en a qui disent qu'il faut utiliser des sprays, d'autres non. Comment réellement on nettoie les oreilles pour avoir son oreille assez efficace sans la mettre en danger ?
Alors, la meilleure des choses, c'est de le faire sous la douche avec un petit jet d'eau un petit peu tiède, hein, pas froid parce que c'est pas agréable, et de ne pas hésiter à bien laver les oreilles en les laissant bien sur le côté pour faire écouler le cérumen, puisque notre oreille sécrète du cérumen qui est nécessaire et logique pour le fonctionnement de l'oreille, mais qui du coup peut des fois créer en s'amalgamant ce qu'on appelle des petits bouchons et que quand effectivement il y a un petit bouchon, là on a besoin d'utiliser un produit spécifique. Mais à la base, une oreille, elle se nettoie très simplement avec de l'eau tiède. Hein, le cérumen se dégage comme ça sur l'oreille droite, sur l'oreille gauche. Après, on peut utiliser des cotons-tiges ou des petits systèmes maintenant comme des petites curettes qui permettent d'enlever ce cérumen. Ce qu'il ne faut pas avec le coton-tige, c'est pousser en fait. Il faut vraiment le prendre que au début du pavillon de l'oreille pour extraire, mais ne pas pousser pour ne pas collecter le cérumen dans la partie moyenne de l'oreille et créer le bouchon. Voilà. Après, quand il y a des bouchons, effectivement, on peut trouver des petits sprays qui permettent de liser un petit peu ce bouchon, où le médecin peut aussi prescrire du cérulise ou des produits qui vont permettre de dégager le bouchon.
D'accord, je vous remercie.
Et dans le même registre, dans la pathologie, comment ? Quand on a une otite, en fait, il se passe quoi dans les oreilles ? Parce que ça fait un peu comme si on avait du coton dans les oreilles. Et est-ce que vraiment, une otite, par exemple, qui est mal soignée ou prise en charge trop tard, ça peut avoir un impact sur notre qualité de d'entente ?
Oui, tout à fait, oui, oui. Les otites sont un problème infectieux au niveau de l'oreille et il y a du coup ce souci qui peut entraîner une atteinte du tympan, hein, voire une perforation tympanique. Hein. Alors ça, c'est aussi possible sur des bruits très violents aussi. Donc, il va être important de diagnostiquer les otites et de les traiter. Traitement par antibiotiques que va donner le médecin. Une otite, c'est assez typique quand vous avez mal à l'oreille, mais vous avez aussi surtout mal aussi quand vous êtes en position allongée, parce que du coup, ça entraîne une pression dans l'oreille, la posture allongée, et ce qui fait que la nuit, ça réveille les enfants, mais ça peut réveiller aussi les adultes. Et du coup, on a très mal à l'oreille. Donc ça, c'est signe qu'il faut aller consulter et faire traiter cette otite, bien sûr.
Alors moi, j'en reviens au silence. Est-ce qu'il y a des lieux dédiés justement en calme, des lieux de silence dans l'université de Tours? Alors peut-être pas une salle Snoozellen ou quelque chose de capitonné, mais enfin, est-ce qu'il y a des endroits dédiés au calme?
Une salle du silence, je ne connais pas, non, je ne pense pas que ça existe à l'université. J'en ai jamais entendu parler. Non, je pense pas. Je pense pas, comme je vous disais en plus tout à l'heure, le silence, c'est très aléatoire, puisqu'il y a très très peu de silence. Je crois que dans un studio comme le vôtre, là, même quand on est au calme, il me semble qu'on a déjà au minimum 10 décibels. Donc, pour vous dire que l'oreille, toujours, elle fonctionne. C'est jamais zéro. Quand on a même peut-être l'impression qu'on est dehors, qu'il n'y a pas de bruit, le moindre petit vent, notre oreille est toujours en fonctionnement. Donc une pièce du silence, il faudrait vraiment qu'elle soit très capitonnée. Et non, j'ai pas connaissance à l'université d'un endroit comme ça.
Ou alors peut-être des salles de travail calmes, mais là, ce serait dans la BU peut-être.
Alors, on peut avoir, voilà, mais là encore, calme, mais vous voyez, le ronronnement d'un ordinateur, les pas de quelqu'un qui va se déplacer. Enfin, on n'est jamais à zéro. Si vous mettez votre sonomètre en route, vous obtiendrez des décibels. On n'est jamais à zéro.
Donc ça veut dire que, est-ce que l'organe, il est fait comme ça, ou est-ce que vraiment des fois l'oreille a besoin de repos et on néglige du coup cette partie-là? Ou alors l'oreille a été créée de telle sorte à ce que ça fonctionne H24?
Ouais, je pense que l'organe est fait comme ça, il est quand même fait pour nous prévenir danger imminent quand même, c'est quand même le but du jeu. Hein. Ouais. Si vous dormez la nuit et que votre appartement prend feu, qu'est-ce qui va vous avertir qu'il faut sortir de votre sommeil? Ce sont vos oreilles. Donc c'est un de nos organes qui sont là aussi pour nous protéger. Hein. Okay. Mmh.
Mais du coup, sur la notion de repos, ça veut dire que pour reposer une oreille, il faut juste être dans le silence pendant une certaine durée, enfin, ou du moins limiter au maximum les bruits pendant une durée donnée. Est-ce qu'en fait, on peut quantifier, par exemple, quand on a été exposé pendant 6 heures à un bruit sans qu'il soit extrêmement puissant, on sait que ça peut impacter notre audition, il suffit qu'on se mette au calme pendant encore 6 heures pour récupérer, ou c'est pas comme ça?
Ça peut être ça si vous dépassez pas les 80 décibels. On est toujours un peu dans cette limite à pas dépasser. Je serais tentée de vous dire oui, vous êtes pendant 6 heures à 80 décibels et puis vous prenez 6 heures de votre temps derrière dans un endroit calme de votre chambre où il n'y a pas de mouvement et autres. Là, effectivement, vous mettez vos oreilles au repos. Par contre, si vous avez été, pendant une soirée près d'une enceinte à 110 décibels pendant 15 minutes, vous pouvez faire 15 minutes de silence derrière, vous ne rattraperez pas ce que vous avez abîmé de votre oreille. Donc, c'est là où il faut prévenir en amont, parce que cette intensité nocive et dangereuse, elle n'est pas récupérable. Hein ?
Je vais rebondir encore une fois sur une question. Je sais que ça fait beaucoup de questions, mais vous avez l'air de connaître votre sujet. J'ai notamment, et beaucoup d'amis, ça peut paraître fou dit comme ça, mais pour s'endormir, j'ai besoin d'un bruit, en fait, réellement. Et moi, du coup, j'utilise un bruit blanc. Je voulais savoir si, du coup, c'était dangereux pour l'oreille ou pas. Je ne le mets pas dans des écouteurs, je le mets en haut-parleur, ou alors je mets un ventilateur. Est-ce qu'à ce moment-là, l'oreille se repose quand même, à ce moment-là?
Elle est en fonctionnement. Elle est quand même en fonctionnement. Par exemple, tu branches un ventilateur qui fait un soufflement.
C'est ça.
Elle reçoit cette information, mais cette information, elle n'est pas nocive. Elle est acceptable pour ton oreille.
D'accord. Donc, ce n'est pas dangereux de s'endormir
avec un bruit.
Donc
là, elle n'est pas dangereuse.
Ok. D'accord, c'est ce que je voulais savoir.
Après, il y a l'oreille et il y a le fonctionnement aussi avec le cerveau. Hein. Alors, par exemple, si on est sur de la parole, sur des chansons, il faut se dire aussi qu'il y a un moment où notre cerveau, il fonctionne aussi, puisque l'oreille, elle envoie les messages là-haut. Hein. Donc, à un moment, on n'est plus vraiment dans le repos ni dans le calme.
D'accord.
S'il y a une information musicale, s'il y a de la parole, s'il y a tous ces messages-là, ils sont analysés par ton cerveau. Donc, du coup, tu n'es plus complètement au repos.
D'accord, ok. Donc c'est important aussi de laisser tranquille le cerveau aussi de temps en temps.
Bien sûr.
D'arrêter d'en
Surtout quand on veut essayer de s'endormir et de se mettre dans une posture pour arriver à trouver le sommeil.
D'accord.
Parce que plus tu vas envoyer d'informations, qu'elles soient visuelles, auditives, moins ton cerveau il est au repos.
D'accord, ok.
Et moi je voulais vous poser une question, Florence. C'était en ce qui concerne notamment les dépistages. Comment ça se déroule en fait un dépistage en tant que tel? Parce qu'on dit qu'on en fait un, mais moi je vois pas trop comment ça se passe. Puisque d'accord, on fait un audiogramme chez nous, puis on vient vous voir, mais il se passe quoi quand on est avec des professionnels qui nous font un dépistage?
Alors, ce qu'on vous fait, l'autodépistage chez vous, ça reste fait avec un ordinateur et ça n'a aucune donnée médicale. Hein. C'est plus un petit lien parce que du coup, les étudiants jouent le jeu de se soumettre à ça parce que c'est facile, rapide, on le fait quand on veut, on a reçu le lien. Le but de ça, c'est surtout pour se dire que s'il y a des suspicions, il y a le lien avec les professionnels et là du coup on peut faire la démarche de venir voir des professionnels. Après quand on s'inscrit au dépistage, donc tout l'intérêt de notre dépistage de jeudi, ça va être que nos étudiants orthophonistes puissent faire une action de prévention par les pairs comme vous êtes habitués à le faire, donc qui font partie aussi d'un travail nécessaire pendant leurs études, d'informer autour de l'audition de la prévention. Après quoi on va proposer du coup un test donc avec l'audiogramme que moi et Christine Régnier, une de mes collègues, puisqu'on va avoir deux binômes médecin-infirmier ce jour-là pour pouvoir recevoir un maximum d'étudiants, allons réaliser. Et soit, effectivement, cet audiogramme, il est normal, et donc on va donner les conseils qu'on vient un petit peu de citer là aujourd'hui, répondre aux questions, bien sûr, des étudiants. Et puis, après, il y aura un contrôle clinique, c'est-à-dire que le médecin va regarder l'oreille, voir si le tympan est bien, si le conduit auditif est normal, s'il y a des bouchons d'oreille ou pas. S'il y a des bouchons d'oreille, souvent, on a des audiogrammes qui sont un petit peu diminués. Donc, on va essayer de comprendre par rapport au test ce qui se passe. On peut diagnostiquer aussi une otite, si un tympan est inflammatoire, s'il y a des choses comme ça. Et puis on peut aussi diagnostiquer une réelle baisse de l'audition, ce qui arrive régulièrement. Donc là, après, c'est là qu'on propose à l'étudiant soit de retourner vers son médecin généraliste et que ce dernier l'oriente vers un ORL de ville, soit s'il n'a pas de professionnel sur place, sur Tours, nous on peut les adresser directement par notre partenariat avec l'hôpital, aux ORL de l'hôpital. Donc on a des rendez-vous par ce partenariat que l'on propose aux étudiants. Suite à ça, ils sont vus par un interne d'ORL, des traitements, des tests plus approfondis, des examens complémentaires peuvent être prescrits. Et suite à ça, on a un petit retour, du coup, si l'étudiant en est d'accord, du professionnel sur la problématique pour laquelle on l'a orienté.
Et pour les personnes qui n'ont pas pu prendre rendez-vous pour le 10 mars, est-ce qu'ils ont quand même la possibilité de venir vous voir à l'occasion de cette journée
Alors, ils peuvent venir pour prendre des informations, puisqu'évidemment, sur le plan de la prévention, on va répondre à ces étudiants-là, mais on va aussi échanger avec tous les autres étudiants qui vont venir au SSU ce jour-là, hein, qui ne viendront pas obligatoirement pour l'audition, mais qui viendront rencontrer d'autres professionnels. On mettra du coup l'accent sur la prévention de l'audition auprès de tout le monde. Et puis, les étudiants intéressés qui vont me renvoyer un mail, eux, on leur proposera de revenir sur d'autres dates, entre autres le 21 mars, j'ai des créneaux qui sont prévisibles pour ces étudiants-là, mais là du coup en individuel, donc on fera, où ils verront juste l'infirmière et le médecin en fait. On va faire ce qu'on fait d'ailleurs depuis maintenant plus de 2 ans, où une fois tous les 2 mois, on propose un temps aux étudiants qui sont demandeurs pour faire un test et un dépistage au niveau de l'audition. Ce qui peut être intéressant aussi, ça peut être pour des étudiants qui ont des déficiences hein, déjà connues, hein, parce qu'il y a des jeunes qui portent des appareils, hein, parce qu'ils ont des problèmes de l'audition. Donc ça peut aussi permettre à ces étudiants de revenir faire un test pour voir un petit peu où ils en sont. Et c'est ce qui nous a, nous aussi, un petit peu surpris au début qu'on a lancé nos dépistages. Ça a été de se rendre compte que ce dépistage, il ouvrait en fait une rencontre entre le SSU et des étudiants souvent un petit peu plus âgés que la L1, qui en fait depuis un certain laps de temps n'avaient jamais fait contrôler leurs oreilles et qui arrivaient en master et qui se disaient ça fait longtemps, on ne les connaissait pas, nous ils venaient pas vers le SSU et ça a permis du coup aussi cette rencontre et ce lien avec ces étudiants. Donc on a souvent des étudiants un petit peu plus âgés qui sont à l'université et qui s'intéressent aussi à ce dépistage. Donc ça a été une rencontre aussi intéressante avec un public plus âgé de nos étudiants.
J'avais aussi une question. On parle souvent du coup de déficience donc liée à l'oreille, mais à l'inverse, on connaît aussi des gens qui ont un phénomène donc d'hypersensibilité face au bruit. Comment est-ce que on pourrait combattre du coup ce phénomène-là?
C'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'hyperacousie. Ceux qui sont un peu hyperacousiques, qui entendent de façon trop intense.
C'est ça.
Ça, j'avoue que l'hyperacousie, je suis pas hyper calée sur le sujet. Je vous dis, c'est vraiment pas le profil d'étudiants qu'on rencontre le plus.
D'accord, ok.
Ouais. On va avoir plutôt peut-être des gens qui auront des acouphènes ou voilà, des choses comme ça. En hyperacousie, après, c'est intéressant d'avoir du coup l'avis de l'ORL et d'essayer d'investiguer pour voir un petit peu ce qu'il en est de cette problématique. Nous, on va pas avoir notre test, notre audiogramme, il va plus nous renseigner sur les pertes de l'audition.
D'accord, ok.
Après, quelqu'un qui va avoir une très bonne audition, il va avoir une bonne audition. Après, l'hyperacousie, je pense que c'est plus quand même cet état de gêne par des sonorités quand même qui viennent un peu déranger. Donc ça va être, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de prendre un peu des précautions d'isolement. Mais bon, il faut de toute façon à ce moment-là un avis médical et là, il faut passer la main à un spécialiste.
D'accord. Hein,
c'est plus trop de mon domaine à moi en tant qu'infirmière. Mais justement, bien faire le lien à ce moment-là, entendre la problématique de l'étudiant et proposer le lien avec un professionnel autre qui va être en capacité, par l'intermédiaire d'examens complémentaires, d'aller un peu comprendre la problématique. Hein. Donc, c'est ce lien à ce moment-là qui va être intéressant entre le médecin généraliste de l'étudiant ou le spécialiste ORL, refaire tout ce chemin pour avoir les réponses à la problématique.
Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé donc, de bouchons d'oreilles sur mesure. Donc, tout simplement, où est-ce qu'on peut en faire et est-ce que c'est pris en charge, du coup? Où est-ce qu'on peut faire des bouchons d'oreilles sur mesure?
Alors, où est-ce qu'on peut en faire? Sur mesure, on ne va pas en avoir beaucoup. Vous pouvez en faire comme ça, à part chez des audioprothésistes. Hein, donc, ça va être eux leur boulot. Donc, c'est l'orientation vers les audioprothésistes du privé. Ça peut être des petits bouchons quand même avec des petits liens qui sont plus efficaces que les espèces de petits bouchons en mousse que l'on peut trouver entre autres donc je pense à ces petits bouchons en silicone là ou les bouchons qui ont des filtres que l'on peut trouver dans les structures souvent aussi où ils vendent des appareils de musique. Ils D'accord. sont souvent très très bien achalandés. Et ces petits bouchons siliconés avec un système de fil là, qui passe au niveau de la tête, permet de les relier. En fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Moi, je suis allée me renseigner et pour 12 euros, vous pouvez en avoir deux paires. Donc, voilà, ça peut se conserver. On peut les mettre quand on va en concert. On peut les sortir à un moment si on se sent gêné, si on veut se protéger, s'isoler un peu du bruit. Et c'est quand même un budget qui est abordable. Après, les moulages, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus cher. C'est 170 euros la paire. Donc là, nous, on aura un prestataire avec des avantages pour les étudiants aux environs des 90 euros. Donc ça, là, on ferait intervenir une structure spécifique et des professionnels qui travaillent sur ce type de moulage.
Donc il y a une légère prise en charge, c'est ça? Donc,
non, il n'y aura pas du tout de prise en charge. Quand vous parlez de prise en charge, ça veut dire qu'interviennent dessus la sécurité sociale et la complémentaire santé. Là, ce n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est hors cadre. C'est le souhait de se faire des bouchons d'oreilles moulés. Et ça, c'est vous qui payez votre paire de bouchons moulés, en fait. Hein. Mais ils nous font un tarif préférentiel pour les étudiants. Si vous voulez, par un échange et un travail là qu'on vient de mener avec eux, ils ont accepté, si on a plus de 10 étudiants intéressés, parce que du coup, il faut aussi que ce soit un peu rentable pour eux, donc ils ont accepté, au-delà de 10 étudiants qui s'engageraient à payer leur bouchon moulé, de venir les faire sur place. D'accord. Donc l'étudiant n'aura pas à se déplacer en dehors de l'Indre-et-Loire. Voilà, il y aura une journée type et il aura les protections à moitié prix que s'il faisait une démarche tout seul pour se les acheter. Quoi.
Ah bah c'est top, ça se passe où et c'est quand ça du coup?
Alors, ça va très probablement se passer dans le cadre du SSU. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant puisque notre message va partir mercredi. Donc, que chacun revienne rapidement vers nous si vous êtes intéressé. Et en fonction, nous allons programmer avec eux une journée d'ici votre fin d'année universitaire. Là, on va essayer de caser ça là assez rapidement.
D'accord, ok, ça marche.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a un pont potentiel avec la mission handicap si, dans le cadre de ces tests, vous dépistez un ou une étudiante qui a un réel problème d'audition, est-ce que vous pouvez les orienter vers cette mission handicap?
Alors tout à fait, on va les orienter vers la mission handicap, sachant que la mission handicap, elle va travailler autour des aménagements extra-pédagogiques, si on peut dire. Hein. Mais on va surtout aussi les orienter vers notre médecin de prévention, puisque du coup, ce sont des étudiants qui peuvent prétendre des aménagements aussi pour leurs examens. Hein, ça peut être en attendant d'être appareillé, puisqu'après, une fois qu'on est appareillé, hein, l'objectif, c'est effectivement, une fois qu'on est appareillé, d'être comme tout le monde et d'entendre comme tout le monde. Mais en attendant un appareillage correct, ça peut être de se mettre devant dans un amphi, ça peut être d'avoir des systèmes amplificateurs de son, ça peut être des choses qui peuvent être effectivement du coup vu et proposé par nos collègues de la mission handicap. Donc il y aura le rendez-vous avec le médecin de prévention pour l'aménagement des examens et pour l'aménagement de la vie à l'université, la rencontre de la mission handicap.
Eh bien merci à tous les quatre d'être venus dans cette méridienne qui touche presque à sa fin déjà. Alors avant de nous quitter, peut-être que vous voulez nous rappeler comment et où on contacte le service de santé universitaire. S'il y a d'aventures des personnes qui ont pris les missions en cours de chemin, est-ce que vous voulez nous rappeler comment on s'achemine jusqu'à vous?
Alors, pour venir au service de santé universitaire, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez du coup téléphoner pour une prise de rendez-vous. Donc, nous avons deux secrétaires qui répondent toute la journée du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Donc, ça, c'est l'une des premières possibilités. La seconde est aussi de passer par le biais du contact santé en créant créant un compte avec sa boîte mail étudiant, et puis comme un peu comme le Doctolib, d'aller chercher les rendez-vous auprès des professionnels, donc en fonction des différentes thématiques et approches de chacun, en fonction de médecine générale, si on veut une spécialité, si on veut un rendez-vous avec un infirmier, si on veut un rendez-vous de prévention, etc. Tout ça est bien détaillé. Et c'est assez pratique puisque l'étudiant peut s'y mettre en dehors des horaires d'ouverture du SSU, c'est-à-dire le soir quand le service est fermé, on peut prendre un rendez-vous à 3h du matin si on a envie. Ça donne une certaine liberté et donc nous mettons tous des plages disponibles pour que les étudiants puissent comme ça s'inscrire. Nous avons aussi deux collègues infirmières qui font des permanences en journée, donc il y a toujours un infirmier au SSU qui reçoit tout étudiant qui se présente, quelle que soit sa demande, et sans rendez-vous. Donc, nous essayons de permettre un accès le plus facile possible. Et aussi, tout infirmier prend les appels téléphoniques des étudiants. S'ils veulent échanger et poser une question, on prend tout appel téléphonique de façon systématique. Et on répond aussi le plus rapidement possible à tous les mails qui nous sont adressés personnellement pour des demandes de rendez-vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près balayé toutes les possibilités que peuvent avoir les étudiants pour venir vers le service de santé universitaire.
Eh bien, c'était très précis. Et pour ceux qui sont plus réseaux sociaux que téléphone ou mail, que téléphone ou mail, donc on a la page donc, Instagram ERS de Tours. Donc vous pouvez venir donc, nous envoyer des messages et nous, on sera ravis de vous donner les informations donc, nécessaires à ce que vous puissiez aller au CSU du coup. Est-ce que vous puissiez aller au CSU ?
Eh bien, merci à vous tous, Axel Missud, Farid Boissoun, étudiant relais santé, Céline Savary, étudiante en stage au SSU, et Florence Mérigaud, infirmière au SSU et donc référente du projet Audition. Merci à vous pour toutes ces informations. L'émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h, à retrouver en podcast sur notre site. Et chers invités et chers auditeurs, nous allons nous quitter en écoutant une chronique de nos estimés bibliothécaires de la bibliothèque municipale de Tours. Aujourd'hui, c'est Framboise qui nous parle d'une de ses BD préférées. Voilà. Merci à nouveau à vous et à très bientôt sur les ondes de Radio Campus Tours.
Oui, bonjour. Alors, c'est la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours. Et moi, mon truc, c'est la BD. Donc, tout à l'heure, je vous parlerai de BD.
Aujourd'hui, sur Radio Campus Tours, on fait escale à la bibliothèque de Tours.
Excusez-moi, je dis que des bêtises. Non, les yeux de Mélissa que je dis que des bêtises.
Des BD, des mangas, en vois-tu, en voilà, à la bibliothèque municipale de Tours sur Radio Campus Tours.
.com. Je voudrais parler de Popeye.
Je laisse donc la parole maintenant à une collègue qui va vous parler de bande dessinée.
Bonjour Mélissa, Sonia et Guillaume. Donc je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle En fuite, réalisée et illustrée par Marcello Lelis, le fameux illustrateur de Popeye, dont je vous ai parlé il y a peut-être 3 ans, que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup son style de dessin. Donc là, je vais tout simplement vous lire le résumé de cette BD que nous n'avons pas encore acquis, qui devrait arriver d'ici une semaine à peu près, puisque donc on a fait une commande de bande dessinée et nous aurons plein de nouveautés à vous proposer à partir de la semaine prochaine, dans une dizaine de jours. Je m'avance un peu trop peut-être, hein, parce qu'il y a quand même des collègues qui sont en vacances et tout ça, voilà. Donc cette BD s'intitule « En fuite ». Et c'est une fantastique course-poursuite dans une ville d'aquarelle. Deux fonctionnaires municipaux d'une petite ville sillonnent les rues pour attraper des chiens errants. De page en page, ils vont être confrontés à une succession d'événements provoqués à la fois par cette folle poursuite et la déambulation d'un vieux monsieur avant de trouver refuge dans une librairie. Au-delà de cette histoire à rebondissement digne d'un film de Charlie Chaplin, l'auteur rend un hommage appuyé aux classiques de la littérature, Pinocchio, La Métamorphose, Don Quichotte, Le Petit Prince, et de la bande dessinée en faisant voyager ses personnages dans ses grands textes dans ses grands textes et récits dessinés. Chaque planche est magnifiée par le trait et l'aquarelle de Lélis, qui déploie tout son talent dans une histoire qui commence par une cavalcade avant de prendre fin dans les pages des livres de notre enfance. Alors, j'ai feuilleté cette bande dessinée, mais sur le net. Je ne l'ai pas encore vue entre les mains. Et les 11 premières planches n'ont pas du tout de paroles, n'ont pas du tout de texte. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça jusqu'à la fin. Ça m'intrigue un peu. Je ne désespère pas, parce que j'aime beaucoup ce genre de bande dessinée sans texte du tout. Et donc, ce sera la bonne surprise. Et je vous invite tous à venir donc, à la bibliothèque de Tours pour emprunter cette bande dessinée d'ici peut-être une dizaine, une quinzaine de jours et toutes les autres que nous aurons reçues d'ici là, toutes les nouveautés qui vont vous attendre bientôt. Au revoir.